Voilà, bonsoir. On va ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Philippiens à nouveau. Alors, Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au chapitre 3, verset 1. Alors, chapitre 2, verset 19 à 3, verset 1. On va lire le premier verset du chapitre 3 parce que la coupure dans le texte n'est pas inspiré. Donc, la division en versets, en chapitres, n'est pas inspirée. Donc, parfois, c'est un petit peu arbitraire. Et là, ben, c'est un cas. Voilà. Alors, donc, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. J'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Voilà. Donc ce passage biblique hein, la fin de ce chapitre 2 aurait pu être considéré comme une conclusion. Voilà. Paul, je pense, avait l'intention de conclure. Et puis au chapitre 3, il rebondit sur le sujet qui méritait d'autres éclaircissements. Et voilà. Donc on ne va pas commencer le chapitre 3, mais vous êtes avertis que s'il y a deux chapitres de plus, c'est que Paul a eu de nouvelles idées plus tard. Donc il est probable que l'épître a été écrite en deux temps. Il y a un premier temps, ce que l'on a déjà vu, et il conclut par la fin du chapitre 2. Mais il a laissé quelques jours, et en reprenant, il a dû se relire. Et il a de nouvelles idées qui sont venues pour aller dans le sens de ce qu'il voulait dire et surtout enseigner. Donc ce que je vous ai déjà dit, c'est que Paul, sa méthode pour enseigner, ce n'est pas la morale. C'est vrai qu'il y avait un problème dans cette église, mais Paul n'a pas prêché de la morale. Il n'a pas dit, alors, vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous conduisez comme des enfants, vous êtes en train de vous disputer, vous avez fait un parti. Et moraliser, leur faire honte. Voilà. Mais le but de Paul et le but du Saint-Esprit qui inspire Paul n'est pas de moraliser. Nous ne grandissons pas avec les leçons de morale. Vous pouvez donner de la morale, et malheureusement, on nous dit, oui, avant, nous avions à l'école des cours de morale. Et j'en ai eu des cours de morale, je me rappelle. Et je me rappelle même des petites histoires qui étaient racontées pour ces cours de morale. Mais la morale n'a jamais fait un homme meilleur. Ça donne une bonne direction, mais là ne donne pas la force. On sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas la force de le faire. Voilà. Alors maintenant, les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Et ils n'ont toujours pas la force. Les choses sont, dans une certaine mesure, on préférerait qu'ils connaissent la vérité et qu'ils connaissent la morale pour, même s'ils ne sont pas capables, eh bien qu'ils soient au courant. Bon, je crois les gens devraient savoir qu'il faut être honnête
Mais au fond d'eux-mêmes, ils le savent. On n'a pas besoin d'un cours de morale. La méthode du Saint-Esprit et celle par laquelle Paul s'est laissé inspirer, c'est de recourir au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre solution. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre joie. C'est lui qui est notre tout suffisant. Les gens ont dit qu'il faut une religion. Je me rappelle, hein, c'était les philosophes du XVIIIe siècle. Ils disaient qu'il faut une religion pour le peuple. Alors même la République, qui était née de toute cette pensée athée et qui critiquait Dieu et qui voulait détruire l'idée de Dieu, n'a pas osé enlever la religion, et la République française a eu une religion. Il y avait l'être suprême et il y avait donc pas mal d'autres choses, et il faisait des cérémonies à l'être suprême. Et il y avait même des baptêmes républicains. Et dernièrement, à Somain, je suis arrivé, il y avait un journal de la ville de Somain qui traînait, et j'ai vu que cet été, il y a eu 2 baptêmes républicains à Somain. Qu'est-ce que vous croyez ? Que l'on a abandonné cette idée-là ? Mais pas du tout, elle était tellement stupide qu'il ne fallait pas l'abandonner. Alors, ces personnes ne croient pas en Dieu, mais ils font quand même un baptême. Alors, baptême pourquoi ? Pour qui ? C'est un baptême républicain, voilà. Et normalement, la République et les idées républicaines de la République française, ce sont des idées athées. Ce ne sont pas des idées religieuses. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, on veut garder quelque chose. On ne veut pas rejeter l'idée de Dieu, mais on veut en garder simplement suffisamment pour que le peuple ne s'égare pas dans l'immoralité. Mais malheureusement, si vous enlevez le vrai Dieu, si vous enlevez la foi en Jésus-Christ, eh bien, l'homme est livré à lui-même. Il n'y a pas d'espérance. Si vous dites à l'homme qu'il n'a pas de créateur, qu'il est le produit d'une soupe de toutes sortes de choses, hein, et voilà, avec un grand cataclysme, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on dit, voilà, vous êtes le produit de cela. Où est la morale ? C'est je fais ce qui me plaît. C'est j'ai envie de faire telle et telle chose. Qui va juger ? Mon semblable ? Mais il est pareil que moi. De quel droit il va me juger ? C'est au nom de quoi il va me juger ? D'une société qui repose sur quoi ? C'est je peux la remettre en question et moi faire ma propre petite révolution. Et voilà, c'est comme ça, je peux même être anarchiste. Nous ne sommes que des animaux, alors il n'y a pas de morale. Mais il y a un Dieu. Et c'est justement, quand la parole de Dieu parle, ce n'est pas en nous prêchant de la morale, c'est en nous donnant une vie. C'est vrai que l'enseignement de la parole, il y a un côté moral, si vous voulez bien voir. L'honnêteté est mise en valeur, la fidélité est mise en valeur, et bien d'autres choses. Mais si nous voulons mettre en pratique ces choses sans nous reposer sur Dieu, alors nous sommes en faillite. C'est irréalisable. C'est où il faut une forte dose d'orgueil pour pouvoir le pousser assez loin et trouver une. Mais ce n'est pas possible. Tandis que quand Paul a parlé aux Philippiens, il leur a présenté Jésus-Christ. Parce que la solution est en Christ. Elle n'est pas dans l'homme. Je ne peux pas trouver en moi-même des ressources. Si je ne tourne pas mes yeux vers Christ, je serai toujours en échec. Je vais toujours lutter. Et c'est une lutte sans fin. C'est une spirale, je peux dire, infernale. Parce que vous ne savez pas de quel côté vous tournez. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez dans l'obscurité et vous ne trouvez pas de point de repère. C'est une angoisse terrible de chercher à être différent, sachant au fond de soi-même qu'il faut être différent et ne pas y arriver. C'est ce qui est arrivé à bien des religions. Si vous analysez un petit peu l'esprit des religions, vous vous rendez compte que ce sont des systèmes qui cherchent à apaiser la conscience de l'homme.
et à lui donner une solution morale pour être différent. Mais au fond de lui-même, l'homme sait qu'il n'a pas trouvé la solution. Et alors, comme l'homme n'arrive pas, alors on lui a donné des pèlerinages. Voilà, les pèlerinages servent à ça. Vous faites un long chemin et vous arrivez au bout du compte à un endroit. Vous avez fait suffisamment d'efforts, et bien vous ne vous sentez pas mieux. Oui, mais ça, c'est Dieu qui comptabilise. C'est vous, vous n'êtes pas le bon comptable pour gérer ce genre de compte. Après, ça, vous débarrassez de cette culpabilité, etc. L'homme s'est trouvé des religions, s'est trouvé des systèmes, s'est trouvé des philosophies, toutes sortes d'idées pour l'enténébrer et le rendre insensible à son besoin de sainteté. Parce qu'au fond de lui-même, l'homme a une soif de sainteté. L'homme sait bien qu'il n'est pas là simplement pour végéter sur cette terre et un jour mourir, que servir d'engrais aux plantes sous lesquelles il se trouve. Au fond de lui-même, l'homme le sait. Mais où est la solution? C'est la solution, elle est en Christ. Hors de Christ, il n'y a pas de solution. L'homme est perdu sans Dieu. Sans Christ, l'homme n'a aucune possibilité d'être en paix avec sa conscience et en plus forte raison d'être en paix avec Dieu. L'homme sait très bien, au fond de lui-même, qu'il y a quelque chose. Alors, c'est cette fin d'épître, disons cette fin de chapitre, de cette première moitié, eh bien, Paul présente deux hommes. Le premier, c'est Timothée. Et le deuxième, eh bien, c'est Épaphrodite. Voilà. Vous avez deux hommes. Ce ne sont pas, du point de vue humain, de grands hommes. Ils n'ont pas marqué l'histoire. En dehors de la Bible, vous ne les trouvez pas. Vous ne trouvez pas un homme politique qui s'appelait Timothée ou quelqu'un qui a changé le cours de l'histoire du nom d'Épaphrodite. Non. Mais dans la Bible, ces gens-là sont nommés. Il y a une épître à Timothée, deux épîtres à Timothée. Paul en parle quelques fois, mais il ne s'étend jamais. On ne sait pas grand-chose sur Timothée, à part quelques détails. Et Épaphrodite encore moins. Il n'y a même pas une lettre adressée à Épaphrodite. Mais ce que nous voyons de ces personnes, c'est leur abnégation. C'est dans ce que nous lisons en deux versets, nous laisse soupçonner toute une vie. Vous avez verset 20. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Voilà. Donc là, il y a un jugement catégorique sur tous et un qui fait exception, c'est Timothée. Et je peux dire que c'est le drame de l'humanité, qu'il y ait un homme qui sorte du lot et que tous les autres, eh bien, restent embourbés dans leur recherche personnelle, les recherches de leurs propres intérêts. Voilà. Ah, je veux être quelque chose, moi. Dans la vie, je veux être quelque chose. Mais si je ne suis pas quelque chose, eh bien, je serai très malheureux. Mais Timothée, eh bien, vous le voyez, c'est un homme qui, il dit, il partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. C'est-à-dire qu'il y avait une église en détresse. Il y avait des gens qui ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en détresse, mais ils l'étaient. Il y avait une situation dramatique. Une église était divisée en deux. Il y avait des problèmes de personnalité et des conflits de personnes. Et tout cela était un mauvais témoignage. L'Église était en danger de se dissoudre, de disparaître. Mais les gens, pendant ce temps, cherchaient leurs propres intérêts. Voilà. Ils cherchaient à être... Ah, moi, j'ai entendu Paul. Moi, je vais essayer de faire ceci et cela pour gagner un peu plus. Je vais être dans cette direction et peut-être que je vais avoir un peu plus et me sentir mieux. Et chacun tournait les choses vers ses propres intérêts. Et même sans parler de questions matérielles, il y a des personnes qui cherchent leurs propres intérêts dans les choses spirituelles. Je pense que c'est le plus grand danger, c'est de vouloir des bénédictions spirituelles pour s'enrichir soi-même. Je veux être un meilleur chrétien. Voilà. Je veux avoir la victoire sur le péché. Je veux être quelqu'un qui est exaucé dans la prière. Il y a des chrétiens qui cherchent cela. Et on est si près de la vérité tout en étant dans l'erreur, parce qu'on se cherche soi-même. On ne cherche pas les intérêts de Christ, on cherche ses intérêts. On cherche la sanctification pour se sentir mieux. On cherche les bénédictions pour avoir des bénédictions. On veut avoir des réponses aux prières pour être béni dans les réponses aux prières, mais pas pour la gloire de Christ, pas pour l'avancement du règne de Dieu, pas pour que l'Église prospère, pour que l'Église avance, mais on cherche ses propres intérêts. Et je pense que cette attitude-là est pernicieuse. Elle est pernicieuse parce qu'elle touche de très près à la vérité. Elle touche de tellement près qu'on peut se faire illusion et croire que tout va bien, alors que finalement, on est un traître. Tout va mal. Je préférerais quelqu'un qui vit dans le péché, excusez-moi de dire la chose comme cela, au moins c'est évident. Mais quelqu'un qui se cherche soi-même, qui cherche ses propres intérêts spirituels, qui joue à son égoïsme spirituel, eh bien, c'est un danger, non seulement pour lui, mais pour l'Église, parce qu'il se joue une comédie. Et il risque d'y avoir des personnes qui sont prises dans ce piège. Parce que c'est comme c'est du levain. Une personne en est atteinte et d'autres en sont atteintes. Et j'ai rencontré des mouvements chrétiens. Je ne les nommerai pas. Si vous avez de la perspicacité, vous connaîtrez. Mais où on recherche ce qui se voit. Pour ce qui se voit. Je les ai fréquentés suffisamment pour me faire une idée exacte, parce que je n'ai pas voulu condamner sans savoir, parce que c'est trop facile de condamner, parce que les gens ne sont pas tout à fait comme nous. Alors, on a vite fait d'élever le ton et de dire, oh, ils sont dans l'erreur. Mais j'ai voulu savoir, et je me suis rendu compte du côté factice des choses, parce que on a un don, parce qu'on a une capacité, parce qu'on peut faire ceci, parce qu'on peut faire cela. Alors les autres, ah, lui, alors là, lui, oui, ça c'est un bon, hein. Lui, il sait. Et puis, mais on cherche par rivalité, à être un peu mieux. Je me rappelle un jour, j'étais dans la rue et je distribuais des invitations. Et il y a un homme qui s'est approché, il m'a dit, monsieur, vous avez, vous, des réunions de jeûne et de prière dans votre église? Non, des nuits de prière, des nuits de jeûne et prière. J'ai dit non, nous n'avons pas de réunion comme cela. Oh, il a dit quand même, vous vous rendez compte? Je n'ai pas voulu continuer la conversation avec une personne comme cela. Parce que qu'est-ce que l'on fait? Regardez mes biceps, hein? On va prendre un centimètre et vous allez faire le tour. Hein. Et on va comparer nos forces et nos. Nous, on a des jeûnes et prières. Mais nous avons ceci. Mais non, mais vous n'avez rien compris. Et on se dispute sur des choses de ce genre. Mais est-ce que nous aimons davantage Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ prend la première place? Est-ce que je renonce à ma vie? Est-ce que je cherche vraiment Christ pour sa gloire? Pour que ce Christ soit glorifié. Est-ce que quand mon frère ou ma sœur en Christ est dans la peine, est-ce que je souffre au fond de moi-même? Est-ce que la peine de mon frère m'empêche de dormir la nuit? C'est là que se manifeste la vraie spiritualité. Et c'est ce que Timothée était. Parce qu'il est dit, il prenait sincèrement à cœur votre situation. C'est pas qu'il passait des nuits en prière et dans le jeûne et dans les ceci et cela. Ce n'est pas un rapport de performance, mais c'est un homme qui prenait sincèrement à cœur les intérêts d'une église. L'église était en danger et il souffrait de ce que l'église était en danger. Voilà un homme spirituel. Voilà des hommes comme il faudrait dans les églises. Tandis que les gens qui se vantent et qui disent, mais moi je suis capable, mais moi je fais ceci, mais moi je fais ça, mais non, mais tu... Attends, on va essayer, tu verras que là, nous sommes complètement dans l'erreur et nous nous cherchons nous-mêmes. C'est pour cela que je vous ai dit au départ qu'il y a une fausse spiritualité qui est plus dangereuse que le péché lui-même, parce qu'elle détruit. Elle nous maintient dans l'ignorance et elle fait de nous une secte, une vraie secte. Parce que les sectes, qu'est-ce que c'est? Le témoin de Jéhovah va et il dit, tu as dit, tu as, combien de réveillez-vous tu as vendu? 500 dans la semaine? Je ne te dis pas le nombre parce que tu serais déçu. C'est alors 750. Là, vraiment, là c'est... Et je me rappelle, ils ont des places, hein, parce qu'ils ont vendu tant de numéros, tant de ceci, tant de ça. Eh bien, il y a une... Comment dire, ils sont comme dans les entreprises. Si dans une entreprise, vous avez fait une meilleure caisse que l'autre, eh bien, vous êtes noté au tableau. Et c'est dans leur système... Il y a aussi des notations. Celui-là, il passe tant d'heures à faire du porte-à-porte, tant d'heures à faire telle ou telle chose. Il vend tant et tant. Et c'est des performances, des comparaisons de performances. Mais nous n'avons pas à faire des comparaisons de performances. C'est ma vie chrétienne doit être livrée entre les mains du Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Christ, pour l'avancement de son Église. C'est cela le plus important. Le reste... Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir du temps. C'est passer du temps dans la prière, passer du temps dans la lecture de la Bible, c'est très bien. Ça, je vous recommande, persévérer dans ces choses et donnez-y vous complètement. Mais ce n'est pas en fonction du temps que vous êtes meilleur chrétien que quelqu'un d'autre, c'est en fonction... du don de vous-même à Christ. C'est ce que Christ peut faire de vous qui fait la différence. Et là, cela nous amène dans l'humilité, dans l'humiliation. Et c'est, on dit, Seigneur, à toi la gloire. Sois glorifié, sois recherché, sois aimé. On préfère être rien pour que Christ soit tout. Et même, on aimerait bien descendre pour que les autres puissent monter. Que les autres puissent avancer. C'est l'esprit dans lequel Paul marchait. Il disait, je voudrais être anathème pour mes frères israélites. Je voudrais être, c'est dans l'épître aux Romains qu'il dit cela, il préférerait être rejeté de la grâce de Dieu si cela pouvait faire la conversion du peuple d'Israël. Il était prêt même, être damné pour que les autres soient sauvés, alors je suis prêt à donner ma vie jusque-là. C'est impossible, bien sûr. Mais façon de parler. Il disait, je suis prêt même à cela, si c'était possible. Et voilà ce jeune homme, Timothée, qui marche dans cet esprit-là. C'est une catégorie de chrétiens qui est absolument irremplaçable dans l'Église. Et là, nous ne sommes plus dans la morale. Nous sommes dans la vie. Dans la vie vécue véritablement, une vie qui triomphe, une vie qui remporte des victoires. C'est comme un fleuve qui balaye tout. Ce que Dieu attend, c'est des hommes et des femmes pour qui Christ est le premier. Ce n'est pas nos intérêts. Ce ne sont pas nos intérêts. Alors nous ne sommes plus dans l'esprit du monde ou dans la matière, mais les intérêts de Christ, les choses spirituelles ne sont vraies et valables que si elles glorifient Christ. Et elles ne sont vécues et aimées que parce qu'elles sont à la gloire de Christ. Et elles sont l'expression du don de Christ, le don de nos vies à Christ. Voilà. C'est avoir une réunion de prière, avoir multiplié les heures, c'est bien. Mais si la prière est dans l'esprit de Christ... Si c'est un don de nous-mêmes, si nous perdons nos intérêts, si nous avons soif de voir les prières exaucées et que Christ soit glorifié, alors la prière, là, a de la valeur. Mais combien de fois on s'est réunis dans une réunion de prière, et je me rappelle avoir été dans des réunions de prière où, à la fin de la réunion, les gens discutent, oui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Non, mais il y a un sale temps, et puis voilà, on discute de tout et de rien, mais on vient de prier. On vient de prier. On ne méprise pas la prière à ce point. La prière est un don. On passe du temps. On espère, on attend. Il y a une intensité dans la prière qui fait que quand la réunion est terminée, eh bien, on est encore sous cette impression non seulement de la présence de Dieu dans la prière, mais du poids des fardeaux pour lesquels on a intercédé. Les sujets de prière nous ont captivés. Nous étions vraiment impliqués dans la prière. Si on peut parler de la pluie et du beau temps et de comme si de rien ne s'était passé, nous n'avons pas été vraiment dans un esprit de prière. Il manquait quelque chose. Et quelque chose d'essentiel. C'est la différence qu'il y a entre la forme et la vie. Entre une pratique et la vie de Christ en nous. C'est combien de gens pratiquent la vie chrétienne et combien de gens vivent la vie chrétienne. Et je peux vous dire, ça laisse entendre deux petites phrases, mais il y a une différence qui est aussi éloignée que le jour de la nuit. C'est comme l'est de l'ouest. Vous ne pouvez pas les rapprocher. Il y a un moment où on choisit un certain mode de vie chrétienne et on dit, ma vie, c'est un don qui est donné à Christ pour la croissance de son Église, pour le salut des âmes, pour que les choses changent autour de moi. C'est Christ, ma vie. C'est Christ qui doit prendre la première place. Et c'est très important que nous nous rendions compte qu'il y a autre chose que des formes dans notre vie chrétienne. Après, il est difficile, et je me rappelle d'une personne, j'avais parlé là-dessus, et elle m'avait dit, mais tu ne vas pas empêcher de lire la Bible. D'accord, je n'empêche pas de lire la Bible. Mais ce que j'empêche, c'est de lire la Bible avec formalisme. Vous pouvez lire des chapitres et des livres entiers de la Bible qui vous font aucune impression, qui changent rien dans votre vie chrétienne. Mais si les choses changent dans votre vie chrétienne, ce n'est plus, ce ne sont, vous n'êtes plus dans la morale, mais vous êtes dans la vie. Bon, il faut que je m'arrête là. Mais la semaine prochaine, on prendra Épaphrodite. Mais nous avons besoin de comprendre ces choses-là. Relisez ces deux petits versets, parce que quand on les lit, c'est une conclusion. On a l'impression de les lire très rapidement, mais il est le seul. Tous cherchent leurs propres intérêts. Il est le seul qui prend sincèrement à cœur vos intérêts. C'est quelque chose, vous savez. Soyez de ces hommes et de ces femmes qui ont à cœur les intérêts, les véritables, pas les formes, pas le. Ne vous laissez pas impressionner par des formes ou par des performances, mais c'est Christ, Christ, toujours Christ. Christ est celui qui doit régner, c'est celui qui règne, c'est celui qui doit régner dans votre vie. Il règnera pour l'éternité, il a commencé son règne, mais nous désirons qu'il règne dans notre vie et qu'il prenne la première place et que ce soit lui qui soit vu, que ce soit lui qui soit manifesté, que ce soit en lui que ces choses soient faites, que tout tourne à sa gloire, à lui, pas à notre avancement, même spirituel, mais à la gloire de Christ.